des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une fois encore l'émission des livres plein les oreilles qui va commencer par une sortie de placard, mes amis. Faut que vous sachiez que la musique est certainement mon lieu de refuge le plus important au monde, bien avant la littérature. Et là, tout le monde se dit, on était sûr que Clotilde, c'était... Ben non, je suis une fille de musique, j'ai toujours adoré ça. Si bien que quand j'ai vu que Vues et Voir avait produit le livre audio de Michel Rochon, Le cerveau et la musique, qu'on présente comme une odyssée fantastique d'art et de science, ça a été plus fort que moi, il a fallu que j'en sache plus. Alors je l'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu et j'ai eu envie de vous faire partager cette mine d'or, parce que c'en est une d'informations que nous recevons dans ce bouquin sur la connexion qui existe entre musique et cerveau. Michel Rochon, communicateur scientifique, pianiste d'ailleurs aussi, et communicateur scientifique et médical. Vous êtes aussi physiologiste?
Oui, physiologiste de gradué de l'Université McGill, il y a longtemps.
Alors, vous aurez compris qu'il est déjà en studio. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Et puis, en seconde partie, je vais vous faire part de nouveautés dans le monde audio, du livre toujours. Et Faline Bobier vous fait savoir quels livres sont, depuis peu, accessibles aux personnes qui en éprouvent le besoin. Donc, accessibles aux personnes qui vivent avec une déficience visuelle. Et ça, c'est via CAEB. Alors, juste avant de recevoir Michel Rochon, ceci.
Du Big Bang au cyborg, en passant par l'épigénétique, je vous propose une aventure scientifique et médicale dans l'extraordinaire monde de la musique. Un sujet ambitieux dont j'ai tenté de traiter avec la plus grande simplicité, sous forme de réflexion. Notre relation quotidienne avec la musique en fait un bien de consommation que nous tenons trop souvent pour acquis. Cependant, nous sommes presque tous dépendants de cette enivrante drogue douce qui agit sur nous de bien des façons. Ce livre témoigne du lien étroit entre l'art et la science, qui remonte au début de l'humanité. Ce que j'ai découvert grâce à l'écriture de cet essai, c'est que la culture scientifique nous démontre encore une fois que la musique fait partie de la culture au sens large. Pourtant, elle n'est souvent pas reconnue à sa juste valeur dans notre société. L'éclairage qu'offre la science sur les origines de la musique, sur la manière dont elle agit sur nous, sur sa nature physique et sur le travail exploratoire pour la faire évoluer, prouve qu'elle est un apport majeur à notre culture. Vous allez découvrir comment fonctionne le cerveau pour percevoir la musique ou pour en jouer. Cette connaissance vient jeter un regard instructif sur la révolution musicale en cours.
Quoi de mieux pour accueillir M. Rochon, Michel, que la musique de Philippe Glass? Ce qu'on entendait, c'est la musique qu'il a composée sur le film The Hours.
Oui.
Voilà, Philippe Glass. Bonjour, Michel Rochon.
Bonjour, Clotilde.
Quel thème que cet essai, le cerveau et la musique, je le disais en préambule, et on est de page en page, j'allais de découverte en découverte, d'émerveillement en émerveillement, et de surprise en surprise. Par exemple, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est le tout début du livre.
Oui.
Vous nous dites que la musique a beau faire partie de la culture au sens large, elle n'est souvent pas reconnue à sa juste valeur dans notre société. Je me suis dit, mais quel constat incroyable.
Oui, parce qu'elle est invisible. Je crois que c'est ça sa caractéristique.
Ouais.
C'est qu'on vit dans un monde éminemment visuel, éminemment matériel.
Ouais.
Et là, soudainement, on a un art très puissant qui nous amène, mais très loin, mais qu'on ne voit pas. Et je crois que c'est un peu ça qui fait qu'on n'y prête pas autant d'attention sur le plan culturel, bien souvent, que l'art visuel, la littérature, les autres formes d'art. Et pourtant, comme je le montre dans le livre, il y a tellement de régions dans le cerveau qui sont sollicitées lors de l'écoute musicale, encore plus que les arts visuels. Il y a une trentaine de régions au moins que c'est certain que son pouvoir est encore là. On pense que ça date d'il y a 100 000 ans, l'invention de la musique chez l'Homo sapiens, et qu'encore aujourd'hui, ça nous anime, on ne peut pas vivre sans musique.
D'ailleurs, vous en parlez de cette hypothèse qu'avant même le langage, les premiers humains communiquaient par la musique. Même Darwin est d'accord avec ça.
Ben, moi j'ai cette phrase, j'ai dit « La mère de toutes les langues, c'est la musique. » Alors, plusieurs preuves autour de ça. Alors, tout d'abord, on croit que l'homme a d'abord utilisé ses cordes vocales. C'est certain qu'il avait des cordes vocales, il émettait des sons. Alors, on croit que l'émergence de quelque chose d'un peu structuré qui donnait un sens à la capacité vocale de l'homme, ça s'est matérialisé, cristallisé autour des rituels. Alors, il y a environ 100 000 ans, quand les regroupements de 50-60 Homo sapiens décidaient qu'il fallait aller à chasse, eh bien, les hommes se regroupaient et utilisaient deux choses. Ils utilisaient leur corde vocale et fort probablement leur corps pour initier ce qui est de plus fondamental chez l'être humain, c'est le rythme.
Mm-hmm.
Les autres animaux n'ont pas de rythme, mais nous avons du rythme.
Oui.
Le rythme de notre cœur, le rythme de notre marche, et nous avons scandé des chants, et nous avons scandé des chants pour nous donner l'énergie chez nos ancêtres pour aller justement à l'attaque, parce que s'il fallait s'attaquer à un mammouth laineux pour le tuer, parce qu'on avait faim, il fallait auparavant rentrer dans un rituel qui nous permettait de nous mettre en état d'alerte, en état de vigilance, et la musique fait ça, le mouvement du corps et la danse fait ça. Mais les rituels sont nombreux, Clotilde, pour l'amour. Ça, Darwin, c'était sa théorie.
Oui, ça, c'était son truc. Mais remarquez, c'est encore vrai maintenant.
C'est toujours.
Parce que Darwin, entre autres, il disait ici que la musique est un outil favorisant l'accouplement sexuel.
Ah, absolument.
Ben, c'est vrai.
C'est vrai, on le voit chez les animaux, chez les baleines, chez les oiseaux.
Alors,
on utilise ça. Mais aussi pour toutes sortes d'autres choses. Pour la guerre, et la musique militaire est restée jusqu'à nos jours. Pour les récoltes, pour à peu près tous les rituels fondateurs de notre société moderne, matérielle, la musique était le lieu de rassemblement. On parle d'un outil de cohésion sociale lorsque l'on parle de musique, et même si aujourd'hui on a atomisé l'écoute, on a encore la preuve qu'il y a probablement des gènes, et j'en parle dans mon livre, on a quelques candidats, mais on n'a pas encore trouvé la génétique de la musique, mais on a des pistes, il y aurait peut-être quelques centaines de gènes à l'œuvre. Mais il y a eu certainement une sélection naturelle pour conserver la musique dans nos sociétés.
Vous dites aussi que l'ouïe pour le fœtus, Michel oui. Rochon, commence à se développer dans le ventre de la mère à peu oui. près à l'âge de 20 semaines. Et vous citez cette violoncelliste oui. qui faisait oui. écouter donc forcément oui. De la musique à son fœtus et qu'il réagissait plus encore à la musique de Bach.
Oui, alors elle a tenté, alors elle jouait dans un orchestre, elle a tenté toutes sortes de musiques et certaines musiques, l'enfant ne bougeait pas, du Brahms, il ne se passait rien, Shostakovich, il se passait
pourtant.
Pourtant, mais voilà, alors c'est pour ça qu'il y a quand même certaines préférences, on a tous des goûts musicaux et c'est fort probablement dans le ventre, c'est probablement une composante qui est héréditaire ou tout au moins transmissible de ça. Alors l'enfant donnait des coups, il était agité quand Bach est arrivé. Et quand l'enfant grandit à 2-3 ans, elle faisait écouter du Bach. Et là, l'enfant était tout énervé. Il s'agglutinait au système de son. Et là, il n'en avait que pour Bach.
Comme une reconnaissance.
Comme une reconnaissance.
Ah, mais je connais ça.
Oui, et naturellement. Et l'enfant qui naît aussi reconnaît une seule chose qu'il a entendue pendant de 20 semaines jusqu'à la fin de la gestation, la voix de la mère.
On va s'en délecter parce que Bach revient souvent dans votre livre. Juste pour le plaisir, quelques mesures. Le problème avec Bach, c'est qu'il n'y a pas de résolution tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je précise que c'est sous les doigts tellement délicats d'Alexandre Tarot et que ça fait partie du clavier bien tempéré. Bon, alors donc, je le disais, Bach revient souvent. D'ailleurs, Bach, j'ai souvent entendu des musiciens, même de jazz, dire que s'il avait connu le jazz, il aurait trippé comme un fou, quoi, parce que finalement, c'est du jazz, beaucoup, la musique de Bach. Ben, d'ailleurs, Lucier,
voilà. On en a des exemples au XXe siècle de gens qui ont jazzé le Bach.
Moi, je voudrais qu'on fasse un... Parce que vous savez, je suis aussi une femme de mots, et il y a un chapitre superbe sur les mots et la musique. Le fait que dans chaque mot est déjà composé au départ d'une musique. C'est une histoire que je raconte souvent, mais je vais la redire. C'est que je sais que Brassens composait ses musiques après son texte, parce qu'il lisait son texte à voix haute, et c'est la façon dont il lisait le texte à voix haute qui faisait que la musique surgissait automatiquement.
Oui, et chaque langue a sa musique.
A sa musique.
Ah oui, oui. Ben oui. Oui, l'allemand, l'espagnol, l'italien, écoutez ça, là. Fermez vos yeux et allez chercher les mélodies. Elles sont bien typées, elles sont bien... Alors, et c'est pas pour rien qu'en Italie, l'opéra, le bel canto est arrivé, tout ça. C'est parce qu'il y avait quelque chose dans la mélodie italienne qui jaillissait et qui était très émotive, très, 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 très forte. Donc, et en plus, les études scientifiques démontrent qu'un enfant qui apprend la musique à partir du jeune âge jusqu'à l'âge adulte a une très grande facilité d'apprendre une langue seconde, une troisième, une quatrième langue, d'où l'adage que j'ai développé, la musique est la mère de toutes les langues. Et les enfants, ils entendent cette musique-là et ça aide pour eux, sur le plan cognitif, de comprendre et de structurer le langage à travers la mélodie de chacun.
Parce que vous dites même, vous allez plus loin que ça en ce qui concerne les enfants, vous dites qu'un enfant qui apprend à jouer d'un instrument, par exemple, améliore du coup sa mémoire verbale, sa capacité de lecture, voire possède un QI supérieur à la moyenne une fois adulte.
Bon, ça, la question du QI, j'entre dans toute l'histoire, la célèbre histoire de l'effet Mozart qui n'en est pas un. Alors, c'est très difficile quand on fait la recherche scientifique, quand on suit des cohortes de jeunes enfants sur une longue période, 15 ans, 20 ans, parce qu'il y a des grandes études comme ça, de vraiment isoler la musique comme facteur. Mm-hmm. Parce que quand l'enfant grandit, d'abord, il y a malheureusement un biais socio-économique. Bien souvent, il est dans un meilleur milieu socio-économique. Il fait pas juste, l'enfant fait pas, s'il fait du piano, il y a des bonnes chances que si c'est une fille, elle va faire du ballet également, elle va faire la nage synchronisée, elle va faire plein d'autres trucs. Et c'est de savoir, de pouvoir départir quel est l'impact pur de la musique, on n'y arrive pas. Mais dans les grandes cohortes, lorsque l'on fait ce qu'on appelle des études randomisées, on se rend compte que chez les enfants, on améliore le rendement scolaire. Ça, c'est prouvé.
Ça, c'est clair.
Ouais, ça, c'est clair que la musique améliore le rendement scolaire. Donc, mais vraiment, le QI comme tel, on a beaucoup de difficultés à vraiment... Des études le démontrent, d'autres le démontrent pas. Alors, on n'est pas encore... Il va falloir attendre encore quelques années avant que la science tranche.
Magnifique citation. Il y en a plusieurs dans le livre, que celle de Victor Hugo. Mmh. Par exemple, Michel Rochon qui dit « La musique, c'est du bruit qui pense. » J'adore.
Oui.
Alors, le cerveau et la musique. On a découvert que le cerveau, que l'oreille et le cerveau font un travail absolument saisissant, énorme et gigantesque. Oui. Et je pèse le poids de mes mots. Là, tu sais, on pourrait penser que j'exagère, mais non. Pour que la musique, en fait, il la décloisonne, il la reconstruise. Oui. Et là, mais c'est incroyable quand même, le pouvoir du cerveau.
Pour nos auditeurs, on va simplifier, mais l'analogie que je donne... C'est que moi, quand j'ai commencé à travailler le livre, je croyais qu'il y avait une seule région qui était responsable de la perception. Et ce que j'ai découvert d'extraordinaire, c'est que notre cerveau sépare toutes les composantes de la musique dans des régions différentes pour être analysées. Alors, les notes, c'est un endroit. La mélodie, c'est un autre endroit.
Ben voyons donc.
Oui, oui. Le rythme, c'est un autre endroit dans le cerveau. Et ainsi de suite. L'harmonie, c'est une autre région. Alors, même le timbre, c'est-à-dire la couleur des instruments, c'est une autre région. Et tout ça, ensuite, est recomposé en temps réel pour nous donner une cohésion. Alors, lorsqu'on vient d'écouter le bac qu'on a entendu tantôt, on a tout analysé dans des régions différentes, mais tout ça a été ramené dans ce qu'on appelle la conscience. Il nous a donné un portrait global de ce qui se passe en temps réel.
Question pour vous, Michel Rochon. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va être, par exemple, touché par ce bac que nous avons entendu tantôt, et puis l'autre beaucoup plus par Philippe Glass? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, Maurice va aimer telle musique et Jacqueline va en aimer telle autre?
Et ça, c'est une question qu'on me pose souvent.
Non,
vous n'êtes pas prévisible. Vous êtes en fait fondamental, Clotilde.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est fondamental question. Alors, voici la réponse la plus juste. C'est que la science a ses limites dans sa capacité de trouver telle région, si ça. Alors, à un moment donné, il y a quand même une limite. Ce que les spécialistes en neuropsychologie arrivent comme conclusion, c'est que on est avec une certaine capacité. Hein? Alors, certains ont des douances. Il y a des enfants à 5 ans qui se mettent à jouer du piano comme s'ils étaient de réincarnation de Bach. Mais d'autres sont des gens normaux, comme vous et moi, qui avons une certaine capacité. Ceci dit, de l'âge de 0 à 20 ans, c'est assez fondamental en musique. Alors, c'est véritablement, qu'est-ce que les parents vous ont fait écouter dans votre jeune âge? Quelle a été l'influence des amis?
Oui.
Parce qu'on sait qu'à la fameuse révolution de l'adolescence, la musique devient centrale.
Oui, oui.
Et là, il y a toutes sortes d'influences. Oui. Et à l'âge de 20 ans, on arrive à avoir écouté beaucoup de musique, et là, on fait des choix.
Ah oui.
Ils sont conscients, certains sont inconscients. Et là, plus tard, on va découvrir d'autres musiques. C'est certain, à 30 ans, on va découvrir la musique balinaise. Pour certains...
Oui, oui, par exemple.
Pour certains,
dont vous parlez d'ailleurs.
Oui, le rythme, la polyrythmie.
Le gamelan, tout ça.
Oui, c'est ça, le gamelan. Alors, pour certains, ça aura un impact, d'autres dons. Alors, il y a une partie de ça qui est véritablement, je dirais, environnementale. Et il y a une autre partie qui est, je crois, déterminée par son caractère, son tempérament. Il y a des gens qui aiment la musique, qui dansent. Alors, ces tempéraments beaucoup plus extrovertis, ils aiment ça. Alors, ils vont aller dans cet univers-là. Des intellectuels plus introvertis vont aller vers Bruckner. Ils vont s'en aller ailleurs. Alors, chacun trouve, par rapport à son tempérament et par rapport à son environnement, une mosaïque de goût qui se développe et qui n'est pas nécessairement... Alors, toutes les régions, alors les régions qu'on a découvertes, elles sont universelles. Vous leur faites écouter, ces régions-là vont fonctionner sur Bach, vont fonctionner sur Céline Dion, vont fonctionner sur tous les styles. Alors, donc, fondamentalement, la machine reste la même, mais comment on l'aperçoit, c'est un chemin évolutif à partir de la naissance.
L'improvisation, vous en parlez parce que vous êtes vous-même un improvisateur. Oui. Et moi, il y a quelque chose qui m'a fasciné, Michel Rochon, c'est lorsque vous dites à un moment donné que vous-même, lorsque vous improvisez au piano, vous sortez littéralement de votre corps.
Et oui.
Et alors, je suis allée chercher, tiens, un tout petit bout d'un des plus grands improvisateurs, certainement, Keith Jarrett.
Oh, vous me gâtez, là.
Et encore, et encore, et encore. Hein. Et Keith Jarrett. Oui, parce que si on avait eu un piano, là, je vous aurais dit, allez, sortez de votre corps, Michel Rochon, et improvisez-nous quelque chose. Mais bon, là, avec Keith Jarrett, on est pas mal.
Oui,
on est gâtés.
C'est le plus grand.
La génétique, on a abordé un petit peu ce sujet-là, mais est-ce que l'amour pour la musique, c'est génétique? Et en même temps, je voudrais qu'on aborde, il y a des gens, j'en ai connu une seule personne, qui n'a aucune sensibilité à aucune musique.
Bon. Alors, cette personne-là souffre probablement d'amusie.
Oui.
Alors, l'amusie, c'est un phénomène, ce n'est pas une maladie, c'est une condition. C'est l'incapacité de percevoir correctement la musique. Alors, il y a quand même 1,5% de la population mondiale qui souffre de ça. Donc, c'est plus de 350 000 personnes au Canada. Et oui, oui, oui. Alors, Isabelle Perrette, ici, qui travaille chez Brahms à l'Université de Montréal, est peut-être une des sommités mondiales, j'en parle dans mon livre, et qui a développé un protocole, le protocole de Montréal. Alors, quand les jeunes enfants prennent les cours de musique, on voit qu'ils sont vraiment pas capables. Alors, on fait passer ce test-là, et là, on découvre qu'il est peut-être ou peut-être pas à musique. Maintenant, on peut percevoir, c'est-à-dire ne pas percevoir le rythme, on peut ne pas percevoir la mélodie, on peut rien percevoir. Il y a aussi des accidents qui peuvent causer ça. Un accident vasculaire cérébral dans les régions responsables de la perception musicale, une tumeur fait la même chose. Donc, il y a des conditions qui sont accidentelles, pathologiques. Merci. Et il y a aussi cette condition, comme quand on parle de la musique comme telle, il y a le fameux Che. Alors, Che Guevara, qu'on connaît de la révolution cubaine. Alors, tu sais, il allait au dancing, toujours accompagné de son aide-de-camp, qui lui prenait le bras.
Ouais.
Et puis, l'aide-de-camp s'assoyait à la table, et là, tu sais, il entendait une bonne musique, il cherchait une dame pour danser, il allait lui demander, là, il commençait à danser, mais il regardait toujours son aide-de-camp, il se tournait jamais dos à son aide-de-camp.
Ah, j'ignorais.
Il regardait l'aide-de-camp tout le temps.
Ah, j'ignorais
alors,
ça.
Pourquoi? Eh bien, l'aide-de-camp, il prenait sa main comme ça, puis il battait le rythme. Parce que le Che, il entendait toute la mélodie, l'harmonie, tout, sauf le rythme. Il avait peur de se ridiculiser, de s'enfarger avec la dame dans ses bras et tout ça. Alors ça, c'est un exemple congénital de cet
Mais
homme.
Mais à contrario, il y a aussi la musique qui peut agir favorablement sur des personnalités malades.
Oui.
Je pense à René Claude.
Oui.
Évidemment, moi... Quand je parle de gens comme René Claude qui sont très malades, vu qu'on préenregistre l'émission, je croise toujours les doigts et pardon si, point de suspension. Mais René, par exemple, qui n'a plus aucun souvenir de rien, sauf d'une chose, elle chante du matin au soir quelques mesures d'une chanson de Léo Ferré.
Oui.
C'est la seule chose qui lui reste.
Voilà.
Et en plus, c'est la chanson qui dit « Je chante pour passer le temps, ami qu'il me reste de vivre ». C'est quand même... Et elle passe son temps à faire ça.
Et ça, c'est la force de la musique. Alors, en musicothérapie, la musicothérapie, maintenant, s'attaque beaucoup à la maladie d'Alzheimer.
Ouais.
Parce qu'on découvre que ces plaques amyloïdes-là, c'est-à-dire c'est la manifestation physique de la maladie, des plaques commencent à se former un peu partout dans le cerveau. comme je vous ai expliqué, Clotilde, plus tôt, il y a beaucoup de régions qui sont impliquées dans la perception musicale, il y a plus d'une trentaine. Donc, chez les personnes qui ne sont pas encore profondément atteintes, mais qui sont dans un stade intermédiaire, leur faire écouter la musique, ça soudainement fait travailler toutes ces régions-là. Alors moi, j'ai fait deux reportages à Radio-Canada, j'en parle dans le livre, qui m'ont beaucoup bouleversé, des gens qui sont terriblement atteints, qui ne bougent pas, qui ne parlent plus, qui sont renfermés sur eux-mêmes. Là, la musicothérapeute rentre dans la salle, ils sont une vingtaine, elle se met à jouer, elle se met à jouer de sa guitare, elle se met à chanter. Et là, tout le monde, tout le monde se lève, se met à danser, à chanter, à parler entre eux. Un vrai miracle. La musique se termine, malheureusement, les personnes se rassoient
retombent dans leur léthargie.
Mais on a quand même développé maintenant des outils. Alors, on leur fait jouer de la musique. Alors, le simple fait, en plus, de rajouter d'autres régions du cerveau qui fonctionnent à l'exécution musicale, ça enlève beaucoup des effets secondaires très négatifs, comme par exemple les crises qu'ils ont lorsqu'ils tentent de prendre le bain.
Le
célèbre goût de se sauver tout le temps. Ils cherchent toujours à trouver la porte de sortie pour se sauver, etc. Ça semble avoir un impact. Naturellement, la maladie, de façon irrémédiable, va finir par toucher toutes les régions. Mais j'utilise toujours le mot « une médecine de compassion ». La musicothérapie, c'est une médecine de compassion. Et il faut choisir pas n'importe quelle musique. Là. Faites pas écouter de la musique de façon aveugle ou d'une station de radio. Il faut choisir la musique de l'adolescence, la musique qui a marqué cette personne-là. Il faut interroger la famille et trouver les pièces. Et là, il y aura le frisson musical, ça va aller chercher des souvenirs, faire rejaillir tout ce qui reste de souvenirs encore, et ça sera très bénéfique pour cette personne.
Michel Rochon, il reste quoi? 1 minute 30 à notre entrevue qui devait durer 12 minutes et qu'on a duré 28, et c'est très bien. Voilà. Je me trouvais en ce moment avec Michel Rochon qui a écrit cet essai passionnant et vraiment qui est très vulgarisé, qui est fait pour toutes les oreilles. C'est le cerveau et la musique, je dis bien. Et Michel, on va se quitter là-dessus, mais j'aurais eu encore d'autres questions parce qu'entre autres, je me disais, à chaque siècle, on a eu un apport qui a fait en sorte que la musique a pu se développer. Alors, on a eu l'ère des magnétophones, on a eu, là en ce moment, c'est l'Internet, c'est grave aussi. Alors, je me dis, demain, en deux mots, demain, à quoi on peut s'attendre pour la musique et comment va-t-elle nous parvenir?
Moi, je lance le SOS à tout le monde. Jouer de la musique.
Jouer de la musique.
C'est encore plus bénéfique de n'écouter.
Michel Rochon, Le cerveau et la musique, merci tellement pour cette entrevue.
Merci.
Procurez-vous ce livre audio, découvrez le livre audio, c'est un très très beau cadeau à se faire. Et ce livre-là, notamment Le cerveau et la musique, signé Michel Rochon. Michel, au revoir.
Merci Clotilde, au revoir.
Des livres plein les oreilles, la suite. En cette seconde partie, j'ai une ribambelle de livres à vous présenter. Je ne serai pas toute seule d'ailleurs pour le faire parce que d'ici un petit 15 minutes, je vais rejoindre Falim Bobier de Caeb qui nous en présentera, elle toute seule, deux ou trois livres accessibles absolument à toutes et à tous via le service québécois du livre adapté et via surtout Caeb dans son cas. Juste avant, puisque nous parlions de musique, eh bien peut-être pour vous faire plaisir, mais en tout cas pour me faire plaisir assurément, cette chanson de Benjamin Biolay.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri. Crie mon enfant, si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu peux prie quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents, si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand, si tu parles à ton ombre de temps en temps, si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent, si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang, si tu as peur de la foule, mais supporte les gens, si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Mon enfant.
Benjamin Biolay, ton héritage. Des petites nouvelles du livre audio. Vous savez qu'il y a un procès en ce moment parce que en juillet dernier, Amazon a lancé un outil, du moins la découverte d'un outil qui s'appelle Audible Caption. Et depuis, le monde de l'édition aux États-Unis gronde parce que cette fonctionnalité qui est destinée à sous-titrer les audiolivres est une violation du copyright. C'est ce qu'estime le monde de l'édition aux États-Unis. Alors, un procès s'est ouvert qui met en accusation la firme de Jeff Bezos, mais le règlement à l'amiable qui a été imaginé prend du temps et même beaucoup de temps. Pour la troisième fois depuis le 25 octobre, les deux parties ont demandé à être entendues par la juge fédérale Valérie Captroni pour qu'elle ne statue pas et qu'elle leur laisse le temps de peaufiner les détails d'une hypothétique sortie de crise entre gens, entre guillemets, bien intelligent. Dans un courrier qui a été déposé le 14 novembre dernier, on a appris que les pourparlers jouent les prolongations, mais cette fois-ci, conjointement. Le statu quo se maintient d'ailleurs sans qu'aucun des deux camps ne fournisse plus de détails. En principe, les éléments finaux, c'est prévu pour décembre, mais sait-on jamais. En attendant, Valérie Lévy-Soussan, PDG de la maison Audiolib, qui a d'ailleurs déjà à deux reprises participé à cette émission des livres pleins les oreilles, elle avait confié à l'actualité avec deux L C'est cette revue littéraire où je m'abreuve abondamment. Donc, elle aurait confié à Actualité que ce service virait carrément à l'aberration. Mais d'imaginer une machine retranscrive un texte depuis l'audio sans demander d'autorisation à personne et dans n'importe quelle langue, a-t-elle dit, c'est complètement insensé. Voilà pour une petite nouvelle du monde audio qui m'amène vers d'autres nouvelles, mais plutôt vers des nouveautés. Avez-vous lu la fameuse série écrite par Elena Ferrante, hein, bien sûr, qui se passe à Naples, bon, une amie prodigieuse et tous les titres qui ont suivi. Il y a des gens qui adorent Ferrante, il y en a d'autres qu'elle laisse un petit peu indifférente. Peu importe, moi j'avais envie de vous présenter L'amour harcelant. C'est sorti dans la collection Gallimard Écoutez Lire, c'est sorti au mois d'août de cette année. On nous présente là, dans ce livre « L'amour harcelant », on nous présente le corps d'Amalia qui flotte dans la mer à l'aube, mystérieusement noyée, et le corps de Delia, sa fille, exposée à la brutalité, au sang et à la pluie, dans la ville de Naples, au ciel plombé, aux rues hostiles. C'est là que se déroule ce thriller familial, sensuel, nous dit-on, et désespéré, dont les rebondissements griffe littéralement le cœur. Qu'est-il arrivé à Amalia? Qui se trouvait avec elle la nuit de sa mort? Pourquoi n'est-elle vêtue que d'un soutien-gorge neuf? Quand on la trouve, je pense que le fait qu'il soit neuf, ça a son importance. Bref, c'est Coralie Zaunero qui incarne Delia, et Delia, c'est la narratrice du nouveau livre de Madame Ferrante, Elena Ferrante. Ça s'appelle « L'amour harcelant » et j'ai pour vous un extrait.
À ma mère. Chapitre 1. Ma mère s'est noyée la nuit du 23 mai, jour de mon anniversaire, dans le bras de mer qui fait face à la localité qu'on appelle Spaccavento, à quelques kilomètres de Minturno. Le lieu même où, à la fin des années 50, quand mon père vivait encore avec nous, nous louions pendant l'été une pièce chez des paysans pour y passer le mois de juillet, dormant à 5 dans quelques mètres carrés surchauffés. Tous les matins, nous, les filles, nous gobions un œuf frais, coupions vers la mer au milieu des hauts roseaux, à travers des sentiers de terre et de sable, et nous allions nous baigner. La nuit où ma mère est morte, la propriétaire de cette maison, qui s'appelait Rosa et avait alors plus de 70 ans, entendit frapper à la porte mais n'ouvrit pas par peur des voleurs et des assassins. Ma mère avait pris le train pour Rome 2 jours avant, le 21 mai. Elle n'était jamais arrivée. Les derniers temps, elle venait chez moi passer quelques jours, au moins une fois par mois. Je n'étais pas contente de la sentir dans la maison. Elle se réveillait à l'aube et, selon son habitude, elle astiquait de fond en comble la cuisine et la salle de séjour. Je cherchais à me rendormir, mais je n'y arrivais pas. Raidie entre les draps, j'avais l'impression qu'en s'affairant au ménage, elle transformait mon corps en celui d'une petite fille toute ridée. Quand elle arrivait avec le café, je me resserrais dans un coin pour éviter qu'elle ne m'effleurât en s'asseyant sur le bord du lit. Sa sociabilité m'agaçait.
Voilà, L'amour harcelant, un extrait de ce livre d'Elena Ferrante, lu par Coralie Zaunero, et vous trouvez ça sur la plateforme de Gallimard, Écoutez, Lire. Pour télécharger cela. De chez Audiolib maintenant, L'affaire Dreyfus de Vincent Duclair, un livre audio lu par Franck De Smet. Nous sommes le 22 décembre 1894, alors qu'un procès d'État condamne un capitaine juif alsacien innocent de toute charge pour crime de haute trahison en faveur de l'Allemagne. S'ouvre 2 ans plus tard une crise majeure de la République et on se souvient notamment aussi de ce qu'avait écrit Zola, de ce J'accuse. Eh bien, l'enregistrement intégral du texte d'Émile Zola fait suite, dans la même parution, au texte sur l'affaire Dreyfus. Et ça tombe, c'est bizarre hein, comme les choses sont faites, mais vous avez peut-être entendu parler de ce nouveau film, J'accuse, lancé par le cinéaste controversé, M. Roman Polanski. Ben, vous savez qu'en France, au moment où c'est sorti, ça a été une première sous escorte policière. C'est ce qu'on nous apprend sous la plume de Jean-Christophe Laurence, qui est pour la presse correspondant à Paris, et qui a dit qu'il y avait eu une levée de bouclier, une vraie campagne promo qui battait de l'aile pour la sortie française de J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski, qui fait des vagues et pour cause, parce que elle survient alors que le cinéaste est de nouveau accusé d'agression sexuelle. Mais que ça ne vous empêche pas quand même peut-être d'aller écouter ce livre audio paru chez Audiolib. Il y en a pour à peu près 6h16 et comme je vous le disais, c'est suivi de J'accuse, du texte donc d'Émile Zola. J'ai aussi un petit extrait pour vous à vous proposer. C'est lu par Franck De Schmett.
Le 29 octobre 1894, la libre parole signale l'arrestation d'un officier français pour espionnage et exige aussitôt de connaître les raisons du silence absolu de l'armée sur cette affaire. Les clercs, proches du Vatican, renseignés par Forcinetti, le commandant de la prison militaire où serait détenu l'officier, confirment la nouvelle le 31 au soir. La patrie, autre titre nationaliste, précise qu'il s'agit d'un officier israélite attaché au ministère de la guerre. Et, le soir, écrit que l'officier en question s'appelait Dreyfus, qu'il avait 35 ans, qu'il était capitaine d'artillerie et était attaché au ministère de la guerre. Le ministère de la guerre, par une dépêche de l'agence Havas, évoque l'information sans préciser le nom de Dreyfus. Devant ce demi-silence, la libre parole, le 1er novembre au matin, titre en première page, haute trahison, arrestation de l'officier juif A. Dreyfus. Le journal ne fait que reprendre ses confrères, mais le retentissement est considérable dans l'opinion parisienne, comme dans les sphères gouvernementales, qui paraissent découvrir la nouvelle, preuve de l'impact de ces 200 000 exemplaires en 1894. Le Figaro, proche des républicains modérés, demande le même jour de savoir très vite la vérité. Puis le gouvernement rend officielle la nouvelle de l'arrestation du capitaine d'artillerie Dreyfus et de l'ouverture d'une instruction judiciaire décidée en conseil de cabinet à l'unanimité des ministres présents.
De te sentir, d'être dans ta peau, nous savons nous déduire au-delà des mots. Tu m'offres tes souvenirs sur ce grand plateau, nous sommes deux à rougir au-delà des mots. Et des fois, thank you. froidement. Si je dois m'assoupir, souviens-toi du bois. Je vois l'orage courir.
Très jolie cette chanson-là, j'ai même pas demandé à Mathieu. Au-delà des mots, Bérise. Eh bien voilà, une belle chanson qui est bonne. Et vous écoutez toujours Clotilde Seille. Non, mais c'est vrai, je le pense. En plus, c'est très agréable. À l'émission Des livres pleins les oreilles, qui vous est présentée entre autres sur les ondes de Canal M, faut-il vous le rappeler. Si tout va bien, je devrais en ce moment, à l'autre bout du fil, pouvoir m'entretenir avec Faline Beaubier. Bonjour Faline.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va très très bien. Je vous remercie beaucoup. Faline, nous avons pris l'habitude depuis maintenant un peu plus d'un an de converser ensemble à cette émission-là pour faire savoir aux personnes qui en ont besoin, qui ont besoin qu'on leur lise des livres entre les oreilles, que Caeb est là pour leur faire découvrir des auteurs et leur littérature. Et donc, je vous ai demandé à vous bien de nous parler de quelques nouveautés encore aujourd'hui à faire entendre à tous ces amis-là. Alors, on commence par quoi?
OK, on va commencer par un roman polar. Ben, c'est mon genre préféré. Donc, mais ça s'appelle Le chasseur de lapins. C'est écrit par Lars Kepler. Kepler, c'est le pseudonyme d'un couple, donc un couple marié, couple d'écrivains suédois.
Ah oui.
Et ils ont déjà écrit 7 romans, dont 6 sont des enquêtes menées par, j'espère que ma prononciation est bonne, Yuna Lina, c'est le détective principal. Alors, et ils ont vendu jusqu'à date, apparemment, près de 12 millions d'exemplaires de ces livres et qui ont été traduits en 40 langues à peu près. Donc, Le chasseur de lapins, c'est le 6e dans la série.
Mm-hmm.
Et
l'histoire en gros, là.
Oui, merci, l'histoire en gros. Alors, au début du roman, on retrouve Yuna Lina, cet ancien détective qui a été condamné à 48 mois de prison dans le roman précédent. Et il est appelé à intervenir dans une enquête visant à aider la police à stopper un tueur, donc l'assassin, est soupçonné de vouloir commettre des meurtres au sein même du gouvernement suédois. Donc, c'est un peu ça le...
OK, c'est ça le thème, c'est ça l'histoire. Oui. On en a un extrait, hein, je vous propose qu'on le fasse découvrir à nos auditeurs.
Très bien.
L'homme se dirige vers la partie salle à manger de la pièce et Sophia lui emboîte le pas, avec la sensation désagréable de se laisser entraîner dans un piège. Il lui semble que la trappe se referme sur elle avec une lenteur engourdie, que les grandes roues dentées tournent et ferment tout chemin de fuite, centimètre par centimètre. L'immense salon salle à manger, aux fenêtres à croisillons donnant sur la baie, est meublé de plusieurs canapés et d'armoires qui n'y semblent pas tout à fait à leur place. Deux verres remplis de vin rouge sont posés au bord de la table ovale. « Puis-je vous offrir un verre de vin ? » demande-t-il en se tournant vers elle. « Je préférerais du vin blanc, si vous en avez, » répond-elle, redoutant qu'il essaie de la droguer. « Du champagne ? » dit-il sans la lâcher du regard. « Volontiers. »« Mais oui, bien sûr, c'est du champagne qu'il nous faut, » décide-t-il. Quand on se rend chez un parfait étranger, on se sent tout petit. Chaque pièce peut être un piège et chaque objet une arme potentielle. Sophia préfère les hôtels où quelqu'un peut l'entendre si elle appelle au secours.
Alors, on comprend que cette jeune femme vend son corps et que le monsieur qui est là et qui lui offre du champagne n'a pas forcément les meilleures intentions du monde.
Oui, c'est vrai. la musique, est-ce que ça faisait partie du...
Non. C'est moi qui mets ça juste histoire de faire vendre le bouquin encore plus.
Oui, ça donne de l'atmosphère.
Oui, c'est ça. On va changer complètement de genre avec Toni Morrison, dont j'ai d'ailleurs parlé, j'ai évoqué son nom il y a maintenant quelques semaines à cette même émission, avec L'origine des autres. Madame Morrison, qui est décédée il y a maintenant quelques mois, a écrit beaucoup d'essais ou même de livres, de romans sur la condition des Noirs. Et là encore, je pense qu'il en est question.
C'est ça. Alors, comme vous dites, elle est très bien connue. Elle est morte au mois d'août cette année. Et c'est quelqu'un vraiment qui faisait un peu de tout. Elle était romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, professeur de littérature. Elle est lauréate du prix Pulitzer en 1988 et du prix Nobel de littérature en 1993, je crois. Oui. Et à ce jour, c'est la 8e femme et seulement le second auteur afro-américain à avoir reçu cette distinction. Oui. Donc, comme vous avez dit, dans la collection L'origine des autres, c'est une série de 6 conférences qui ont été prononcées par Morrison à l'Université de Harvard. Et justement, dans ces conférences ou dans ces essais, elle traite de la question de ce qu'elle appelle l'obsession de la couleur dans la littérature. Donc, elle donne des exemples de comment les écrivains, et pas seulement dans les livres, mais aussi... elle parle aussi d'événements historiques
ou au cinéma, tout ça.
Oui, c'est ça, où le personnage noir est conçu comme l'autre, est conçu comme ne pas être vraiment humain. Oui. Et de cette façon-là, on l'éloigne de soi-même. Donc, très intéressant, je trouve.
Bien sûr. Ouais. Pour illustrer vos propos, je pense que c'est le bon extrait qu'on va écouter.
Les différentes façons dont la littérature utilise la couleur de peau pour révéler un personnage ou faire progresser le récit, surtout si le personnage principal du roman est blanc, ce qui est presque toujours le cas, sont pour moi l'objet d'une fascination constante. Que ce soit l'horreur d'une unique goutte du mystique sang noir, les indices d'une supériorité blanche innée ou d'une puissance sexuelle déréglée et excessive, la conception et la signification de la couleur sont souvent le facteur décisif. Pour ce qui est de l'horreur suscitée par la règle de l'unique goutte de sang, il n'est de meilleur guide que William Faulkner. Par quoi d'autres sont hantés de bruit et de fureur, ou Absalom, Absalom. Entre les violences résultant du mariage que sont l'inceste et le métissage, terme ancien mais utile pour désigner le mélange de races, le second est, à l'évidence, le plus odieux. Dans une grande partie de la littérature américaine, quand l'intrigue requiert une crise familiale, rien n'est plus répugnant qu'un rapport sexuel consenti entre les races. C'est l'aspect consenti de ces relations qui est rendu scandaleux, illégal et abject.
Extrait de L'origine des autres de Toni Morrison, disponible à tous, absolument à toutes et tous, via Caeb. Si vous me le permettez, Faline, je voudrais en profiter pour rappeler qu'il y a aussi dans le même genre une autre auteure fantastique qui s'appelle Roxane Gay. Il y a des livres, écoutez, j'ai même eu moi la chance et l'honneur, je vous dirais, de lire deux titres de Roxane Gay qui sont maintenant disponibles sur notre notre site Vues et Voix, livreaudio.vuesetvoix.com, il y a Bad Féministe, où il est beaucoup question également de la négritude et affamé aussi. Et puis, au mois de janvier, voyez-vous, Faline, je vais recevoir Mireille Metellus, qui est la lectrice de Noir sous surveillance de Robin Menard. Ça, c'est un essai qui a été écrit sur la condition des gens de couleur au Canada, la façon dont ils ont été reçus, accueillis ou pas. Voilà.
Ben, c'est intéressant. Oui, j'aime beaucoup Roxane Gay. J'ai lu, je pense, les deux livres que vous avez mentionnés.
Voilà. Ouais. Ah, oui, non, et ouais, puis c'est, ouais. C'est... Écoutez, on aurait voulu peut-être parler d'un Stephen King, mais on manque de temps. Alors, on garde ça pour une prochaine fois?
Oh, très bien.
Parfait, Ferline. Merci infiniment. Toujours des choix judicieux que vous nous proposez à l'émission et c'est très apprécié.
Donc,
à bientôt.
À bientôt. Okay, merci.
Salut, Faline. Merci. Okay. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, Faline Bobier, que je remercie une nouvelle fois d'avoir participé à cette émission, ainsi que Michel Rochon, que j'ai reçu en première partie pour cet essai merveilleux, mais vraiment génial, Le cerveau et la musique. C'était Clotilde Sey qui remercie Mathieu Tessier en régie aujourd'hui et qui vous remercie, vous, d'être là. Bonne lecture, les amis, à la semaine prochaine. Salut.